Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Michel Aurier. Bonjour Michel Aurier.
Bonjour.
Donc Michel Aurier, vous êtes directeur de la musique pour Radio France, c'est bien cela?
Oui, c'est ça.
Voilà. Et puis vous êtes, depuis l'été dernier, le nouveau patron du festival Radio France Occitanie, enfin, que je le dise dans le bon ordre, Radio France Montpellier Occitanie, voilà. J'ai failli me tromper dans l'ordre.
Non, c'est Occitanie Montpellier, mais c'est pas grave.
c'est bon. Radio France Montpellier, tout le monde sait de quoi il s'agit.
Voilà. Et c'est un peu le sujet d'ailleurs, objectivement.
Alors, d'autant plus que c'est un peu moins Occitanie et un peu plus Montpellier que les dernières éditions.
Oui, alors, c'est un festival, c'est comme... Enfin, les grands festivals, celui-ci en est un, ça a une vie, et une vie, il y a toujours des moments, des périodes différentes. Il y a eu la période un peu fondatrice qui a été celle de René Koering et qui, dont on connaît et les fastes et les succès et l'énergie primaire. Et puis après, il y a eu une autre période avec cette volonté d'embrasser l'intégralité de la région. Et aujourd'hui, c'est une troisième période qui s'ouvre où on a décidé de recentrer le festival sur la métropole en intégrant la région de façon différente, hein, puisque c'est une région qui a la taille de l'Autriche et qui compte de nombreux très grands artistes et donc tout à fait... prendre en compte cette dimension-là, mais en retrouvant un peu les règles du théâtre classique, c'est-à-dire une unité de lieu, de temps, d'action sur Montpellier qui nous permet d'embrasser la ville, d'en faire un endroit de festival. C'est-à-dire dans le festival, il y a la notion de fête, il y a la notion de festin, de musical, il y a cette dimension un peu de vibrante qu'on doit retrouver et qu'on retrouve plus facilement quand on définit son périmètre à sa taille.
Oui, quand ça n'est pas dilué dans l'espace,
trop dilué dans l'espace. Donc voilà, dès cette année, on a décidé de le faire comme ça. On va aussi ouvrir de nouveaux lieux que le festival n'utilisait plus ou dans lesquels il n'allait pas. Et peu à peu, comme ça, chaque année, chaque édition, vraiment faire vivre la ville par la musique, par toutes ses ports. Et ça, je crois que c'est en tout cas, c'est et notre volonté et celle de, évidemment, de Michael Delafosse, le président de la métropole, mais aussi de Carole Delga et de l'ensemble des tutelles. Et puis pour la première fois, l'État nous rejoint. Et moi, je suis très, très, très content de ça. Et voilà, donc on a pu discuter avec l'ensemble de nos tutelles de tout cela. Et puis bien évidemment, Radio France en premier lieu, puisque c'est le festival Radio France Occitanie-Montpellier. Et c'est pour ça qu'en tant que directeur de la musique de Radio France, j'en ai pris la direction au mois de septembre dernier.
Alors, donc ça c'est les nouveautés, mais il y a beaucoup de choses qui restent, hein. Je dirais l'organisation générale du festival pour les festivaliers qui sont des habitués. Il va y avoir les grands concerts classiques, de musique classique le soir, il va y avoir le jazz au domaine d'eau, et puis il y a cette, je dirais, peut-être pas jusqu'à la manière du festival d'Édimbourg, mais en tout cas une volonté de marier les genres et de ne pas être qu'un festival de musique classique.
Oui, alors ça, c'est dès le début, hein, il y a toujours eu ça, parce que moi je me souviens d'André Francis qui faisait la programmation de jazz de Montpellier, aux côtés de René Koering. Donc il y a toujours eu ça, simplement, je vais le faire de façon un peu différente. Et je pense qu'il faut bien marquer... que c'est des esthétiques différentes, ça se traite quand même à égale dignité. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de bien prendre en compte des artistes majeurs dans toutes les disciplines et de les avoir dans ce temps qui est le temps du festival. Donc c'est vrai qu'on a par exemple en résidence Émile Parisien, qui à mes yeux est le plus grand saxophoniste français en ce moment. C'est un artiste absolument incroyable. Et donc on va faire un parcours sur trois temps différents avec lui, quatre, si je ne dis pas de bêtises, et qui va pouvoir donner toute la palette de son talent. On va le voir avec son sextet de jazz habituel, on va le voir en duo en train de relire le répertoire de Ligeti. Donc là il y a une vraie passerelle entre le jazz et la musique classique. On va l'entendre avec le nouveau quatuor de Vincent Segal et de Balaké Sissoko avec Vincent Perani au domaine d'eau. Et puis il va nous faire un salon de musique dans les salles du musée Fabre, dans les salles Soulages, pardon, du musée Fabre, parce que je suis toujours très impressionné par ces salles. Je trouve qu'il y a une lumière absolument incroyable et que c'est probablement le plus bel endroit au monde pour apprécier le geste de Pierre Soulages.
J'ai toujours le sentiment par rapport à ces salles que si on veut comprendre l'art de Soulages,
il faut venir
ici. Il faut passer là.
Ouais, mais tout à fait, je suis absolument d'accord avec ça. Et je dois dire que à chaque fois que je venais à Montpellier, j'allais toujours visiter les salles Soulages en tant que visiteur. Parce que je trouve que on a toujours un moment très particulier. Il y a vraiment une dimension qui touche quasiment au sacré, enfin qui est très, très, très impressionnante.
Et en plus, on peut y revenir à différents moments, parce qu'il y a des variations de lumière, et du coup, c'est plus la même chose.
Par exemple, aujourd'hui, où la lumière est un peu différente des autres jours, j'en reviens d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'on me disait ça. Mais donc voilà, j'ai fait trois salons de musique, dont un qui sera tenu par Émile au pied des œuvres de Soulages, les deux autres étant Michel Portal et Balaké Sissoko.
Excusez du peu.
Oui, voilà, donc ça devrait être assez sympa. Alors évidemment, c'est pour des toutes petites jauges. Mais en tout cas, les quatre concerts d'Émile, on pourra suivre ce parcours et je pense que c'est vraiment très, très, très important.
Et puis une grosse pour le jazz aussi, donc grosse programmation comme les autres années au domaine d'eau,
oui.
avec les trois lieux et les trois horaires,
hein, oui.
Avec les micocouliers, avec le jardin qu'on retrouve, enfin le parvis du château, et puis bien sûr l'amphithéâtre, magnifique amphithéâtre du domaine d'eau.
Oui, et puis la salle de l'Agora qu'on ouvre. L'Agora qui est donc Montpellier Danse, la salle de vin pour celles et ceux qui nous écoutent et qui connaissent. C'est la salle de Montpellier Danse, c'est le couvent des Ursulines, c'est une salle absolument superbe que Jean-Paul Montanari, que je remercie d'ailleurs, nous a ouvert très, très gentiment, très spontanément. Et donc le jazz aura plusieurs temps comme ça, en fin d'après-midi, effectivement, comme vous l'avez dit, au domaine d'eau. Les quelques grandes soirées avec Samara Joy, avec MC Solar en version symphonique, avec Émile Parisien, avec etc., etc. Et puis à 22h à l'Agora, on aura une partie Agora Club, et là pour une somme très modique, aux alentours de 7 euros, 5 ou 7 euros, je ne sais plus, en tout cas c'est très très accessible, on pourra découvrir des formations qui sont des formations... vraiment formidable. Je pense à Das Capital, à Simon Moulier, qui est un vibraphoniste français qui vit à New York, qui est absolument incroyable. Voilà.
Alors, vous évoquez, en parlant des concerts de jazz club, donc le tarif des places. Alors c'est toujours un sujet délicat pour un festival, surtout par les temps qui courent, où les coûts des festivals augmentent de façon... un peu folle. Donc, quelle est votre politique en matière de prix ? Alors, je sais qu'on vous sollicite souvent là-dessus. Il y a souvent des remarques plus ou moins bienveillantes.
Non, je ne prends pas comme ça. Je trouve que c'est un vrai sujet dont il faut débattre, puisque Montpellier a été très longtemps synonyme de gratuité. Ça a été dans les années 80 une volonté exprimée à l'époque, traduite dans les faits, à l'époque où on expérimentait beaucoup ça et où on pensait que la gratuité allait amener de nouveaux publics qui d'habitude ne viennent pas au spectacle. On se rend compte 40 ans après que c'est pas tout à fait ça la réalité. Ça permet à des catégories de publics qui sont déjà très... très pratiquante de la culture. Hein,
des concert goers, comme diraient les Anglais.
Peut-être, oui. En tout cas, d'y aller encore plus, mais ça n'y fait pas venir des gens dont l'habitus, l'habitude sociale ne fait qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller au concert classique ou au concert en général. Donc, on voit bien que ça passe par ailleurs, enfin, qu'il faut aller les chercher autrement que par le simple fait que dire venez, c'est gratuit, etc. Le fait qu'on... Et puis, il y a un autre problème peut-être plus fondamental, philosophique et financier, mais les deux à la fois, c'est que sur scène, on a des gens dont c'est le métier, dont c'est le métier à très haut niveau, c'est des gens qui consacrent leur vie entière, qui le font avec un talent absolument énorme, et que ça a une valeur. Et le fait de le faire gratuitement, il y a quelque chose qui dysfonctionne dans cette histoire-là. Il y a un truc qui ne va pas. Et puis après, l'autre chose, tout bêtement, c'est que pour que ce soit gratuit, il faut que ce, bien qu'il y ait quelqu'un qui finance tout ça. Et ce quelqu'un, c'est la puissance publique. Le mécénat éventuellement, mais en tout cas en ce qui concerne Montpellier, c'est la puissance publique. Et la puissance publique, elle a des limites. À un moment donné, elle ne peut pas affronter les... Parce qu'il y a toujours cette ambivalence. En général, on ne parle que des choses que partiellement, mais on ne peut pas augmenter non plus les contributions de tout le monde par l'impôt, bon, etc. Donc à un moment donné, on a un volant d'argent qui est disponible pour tout ça, mais qui n'est pas extensible. Donc il y a quand même une part que chaque spectateur est amené à payer, participer, etc. Ce que je dirais simplement par rapport à ça, c'est que nous, notre volonté, ça a été à la fois de responsabiliser tout le monde en disant, bon, voilà, ça a un prix, et de faire en sorte que ce prix reste absolument accessible à tout le monde. On n'est pas du tout dans des prix de place comme dans certains autres grands festivals où ils sont entre 150 et 250 euros, voire plus, la place. Ce n'est pas du tout notre politique. Encore une fois, il y a des places qui sont à 5 euros, à 7 euros, notamment pour les jeunes, et qui vont monter jusqu'à un petit peu moins de 60 euros, je crois. Donc, voilà, je crois qu'on peut trouver des places sans problème et vraiment dans la mesure de ses moyens au festival. Et d'ailleurs, je dois dire que ça, j'ai évidemment été interrogé là-dessus, ce qui est encore une fois tout à fait légitime, mais que je n'ai reçu aucun courrier ou aucune lettre. Enfin voilà, je pense que les gens comprennent tout à fait cette démarche.